La question donc de Nathanaël, est-ce que la émouna, la foi en Dieu, c'est une chose qui s'acquiert, alors qu'à la base on n'a rien du tout, on parle de zéro, ou bien on a déjà ça en nous, et il faut simplement le réveiller, l'acquérir avec un travail sur ce sujet. Ce à quoi je réponds, que dans les deux cas, donc, on l'a pas, ou que tu l'as en potentiel, mais c'est inconnu parce que tu ne le ressens pas, mais tu l'as, mais ça revient au même comme si tu ne l'as pas, et tu l'acquiers lentement. Ça revient au même, à mon humble avis. Néanmoins, il est marqué que les Juifs sont appelés « ma'aménim blé ma'aménim », croyant, fils de croyant. Alors, je veux bien, quelqu'un qui, je sais pas, problème héréditaire, d'accord, donc, on va dire, tendance à avoir du cholestérol, fils de père qui a tendance à avoir du cholestérol. Bon, ça j'entends, c'est une chose qui est héréditaire. Je peux avoir quelqu'un qui est jaune, fils de jaune, d'accord, blanc, fils de blanc, rouge, fils de rouge. Tu es un chien, fils de chien, d'accord, normalement, un chien fait des chiens. Mais un croyant, fils de croyant, ça je comprends pas. C'est-à-dire, tu peux avoir, on voit beaucoup de cas de gens qui sont croyants, et leur fils, il est incroyant. Et t'as le contraire, t'as beaucoup d'incroyants dont les fils, tout va, deviennent des croyants. Donc c'est quoi, croyant, fils de croyant? C'est en deux mots qu'on a reçu de façon innée par une mère juive, on reçoit une neshama juive. C'est une sorte de surplus spirituel, de proximité à la divinité. Nous provenons de l'intérieur de la divinité, qui fait que de façon plus facile, nous pouvons nous mettre en contact, en relation étroite et intime avec HaKadosh Baruch Hu, avec la divinité. Maintenant, tu es libre d'aller et d'atrophier ce lien que tu as avec Dieu, et tu es libre d'aller et le cultiver. Quelqu'un qui était éduqué loin de la Torah, en tant qu'athée, donc évidemment, il n'a pas ça. Il a ça en potentiel. Mais il peut le réveiller. Très souvent, une des bonnes méthodes pour interpeller, pour appréhender une personne qui est non-croyante, elle laisse son attache au peuple d'Israël. Et tu lui dis ce que tu as d'Israël. Alors il y a deux réponses. Celui qui est très très loin, lui, il n'a rien à faire. Ça, c'est en Amérique, d'accord, en Angleterre, dans les séminaires, on parle de pourquoi rester juif. Mais dans le petit monde, petite constellation francophone, d'accord, la grosse majorité, ils sont fiers d'être juifs, ils aiment Israël, ils peuvent être complètement athées. Moi, j'ai mangé du roi qui pour, mais tu es goy, il te plante une tarte, d'accord. Je suis juif, plus que quoi. Ça veut dire quoi, ça? D'où vient alors? Des gens pourraient dire non, c'est un nationalisme, d'accord, il est attaché à son. Comme un Américain, il aime l'Amérique, un Anglais aime l'Angleterre, un Nouvelle-Zélandais, je ne sais pas comment. D'accord, un Philippinais, il aime les Philippines, d'accord, alors un juif, il aime le peuple juif, il aime son pays. Mais néanmoins, c'est quand même profond. C'est plus profond. C'est vrai que c'est une minorité opprimée. Et tout le monde. Minorités opprimées ont tendance à se sentir très solidaires et à avoir une sensibilité à fleur de peau, etc., épidermique. Mais je ne pense pas qu'on puisse réduire l'amour d'Israël qu'ont les Juifs, d'Israël, je parle du peuple d'Israël et de la terre d'Israël confondue, à un nationalisme à dessous. Quoi qu'il en soit, cette attache, cet amour irrationnel qu'a le Juif pour son peuple, c'est en fait la source, c'est la Neshama, c'est en fait un amour de Dieu. Parce que si tu regardes rationnellement, pourquoi même les Juifs? Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont tout aussi, pas plus magouilleurs que les autres, ils sont pas polis en Israël, franchement, d'accord, c'est la grosse insolence. Qu'est-ce que... Il a un amour. Des gens qui sont loin de Torah, loin de tout, sont prêts des fois à venir, à aller rester dans une unité de combat difficile, souffrir. Ils sont heureux de faire ça. Parce qu'ils donnent pour leur peuple. Et encore, je répète, on ne peut pas réduire ça à un nationalisme à dessous. En fait, c'est un amour de Dieu. Mais vu qu'il ne peut pas accepter Dieu, pour un tas de raisons éducatives, pratiques, sans kikinant, s'il y a Dieu, alors comment puis-je fréquenter celle ou plus rien que je fréquente, d'accord, c'est assez limitant de croire en Dieu. Donc, Dieu, on met de côté, mais Israël, par contre, on se défoule, d'accord, on adore Am Israël. Aïlat, d'accord, on adore Am Israël. C'est un amour de Dieu, c'est certain. C'est pour ça que ce sentiment est kadosh en soi, est saint. À nous d'aller et d'interpeller la personne en lui faisant voir pourquoi. Pourquoi, si je te dis maintenant que tu n'es pas juif, tu te sens blessé. Alors c'est quoi un juif? Il y a un petit décalage. D'abord c'est Israël, donc c'est du nationalisme. On dit non, en fait tu n'es pas attaché à Israël, tu es attaché au peuple juif. En tant que juif, alors c'est quoi un juif? Qu'est-ce qui définit un juif? Bon, mère juive ou conversion, quelle est l'essence du peuple juif? Là, d'arriver à la Torah, c'est très facile. Il n'y a pas de, juif sans judaïsme. Et si nous sommes juifs aujourd'hui après 3200 ans, c'est parce qu'on a, pratiqué cette Torah. Il n'y a pas de personne qui ne pratiquait pas la Torah il y a quelques siècles, dont les arrière-petits-fils aujourd'hui sont juifs. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Donc si tu es attaché au peuple juif, et donc attaché à l'éternité du peuple juif, donc forcément tu dois t'attacher à la source d'éternité qui est l'éternel. C'est QFD. C'est facile comme ça quand je dis, mais il faut... Donc, on a ça. Et en cela, nous sommes croyants, fils de croyants. Maintenant, à nous d'aller et de cultiver. Si ça, on ne cultive pas ça, alors ça meurt. Maïmonide écrit une note dans son livre, dans le Guide des Égarés. Si je me souviens bien, c'est dans le chapitre 51 du troisième tome du Guide des Égarés, il y a une note. Et il dit là-bas que le contact que nous avons avec le Jehovah Rohu, il passe par la connaissance de Dieu. Et si on n'a pas cultivé cette connaissance, alors elle va s'amenuiser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et il dit, ce n'est pas par le fait que tu pries en bougeant la tête comme ça, ou que tu fais de filine, tout ce que nous faisons comme action, s'il n'y a pas une connaissance de Dieu qui va avec, alors l'action, au bout d'un moment, c'est pas dit que c'est comme tu prends une hache et tu coupes du bois dans la forêt. Alors tu te balances comme ça, tu te balances comme ça, ça va à peu près au même. C'est rien, c'est rien. C'est le problème de beaucoup de religieux qui ont reçu de façon machinale les réflexes juifs, d'accord. Ils sont à l'école juive, les pauvres miskenim, d'accord. Et ils ont une heure de prière tous les matins et puis ils tournent les pages, d'accord. D'accord. Des fois ils lisent même, des fois. Ou même ils ne bougent pas les lèvres. Bon, d'accord. C'est bien à causer parce que je ne vais pas les mettre dans une école avec des non-juifs. Ils vont finir je ne sais pas où. Le problème, c'est que je leur donne une éducation juive sans contenu, sans connaissance. C'est dur parce que ce sont des jeunes. Sans amour de Dieu, c'est très dur l'éducation, mais idéalement, on doit donner une connaissance. Et le Rambam dit, lorsqu'il y a la connaissance, il y a l'amour. Il est impossible d'aimer une chose qu'on ne connaît pas. Donc la connaissance et l'amour, ça va ensemble. Du moment qu'il y a une connaissance, il y a un amour, c'est ça la foi. C'est ça la foi en Dieu. On crée une relation. Donc il faut travailler sur deux niveaux. L'action, bien sûr, parce que c'est nécessaire pour ne pas faire des avérotes, etc. Mais il y a deux niveaux supplémentaires qui sont nécessaires. C'est l'amour, donc le sentiment, le cœur. Et la connaissance, c'est la tête. Comme je dis très souvent l'exemple, Chazal ont pris cet exemple. Je dis ça très très souvent. Chazal ont pris comme exemple de relation que nous avons avec Dieu, la relation qu'il y a avec une femme. Rabbi Akiva a dit, si tous les livres sont saints, le saint des saints, c'est le cantique des cantiques. Shir HaShirim. C'est une histoire d'amour. C'est le saint des saints. Parce que exactement la relation d'amour qu'il y a avec une femme, c'est la relation d'amour qu'il doit, il doit y avoir avec Dieu. Quand tu as une relation d'amour avec une femme, ben ça se passe normalement dans les gens normaux, d'accord, à trois niveaux. Tu as une connaissance, tu la connais, tu discutes avec elle, tu regardes ce qu'elle pense et tout ça, on discute. Il y a ici ça, la connaître. Connaître, c'est pas sentimental. Connaître, c'est rationnel. Elle me dit ce qu'elle pense sur des avis, je lui raconte ma vie, elle raconte sa vie. On commence à se connaître, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, quels sont ses désirs, quelles sont ses ambitions, ses projets, etc. Tout ça, c'est la connaissance. Je veux la connaître, d'accord. Connaître signifie savoir qui elle est. Qui elle est, ça se fait par du discours, parce que par une transmission d'informations. Bon, une fois que je sais qui elle est, si on est fait l'un pour l'autre, ben y a un sentiment qui vient. Je la connais par cœur, mais si je ne ressens rien, ben rien qui va se passer. D'accord, il faut qu'il y ait du sentiment, l'amour. L'amour, après, ça se dit l'amour. il y a aussi un sentiment, ça doit s'exprimer. Donc il y aura une expression au niveau de la connaissance, une expression au niveau du sentiment. Si quelqu'un, c'est un prof de philo, il est avec une prof de philo, il parle que de philo toute la journée, il se marie pour ça, ils ne vont pas aller très loin, d'accord. Il faut qu'il y ait aussi un peu de romantisme, d'accord. S'il n'y a que du romantisme, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais il n'y a aucune discussion qui dépasse le je t'aime, ça ne va pas faire long feu non plus, parce qu'il n'y a pas de connaissance. Il faut les deux. Et après, il faut l'acte. S'il n'y a pas les actes, on se regarde, on fait que s'exprimer avec la bouche. Rien de plus, ça ne va pas aller loin non plus, d'accord. Donc il faut les trois choses, avec Dieu, idem. L'acte, on le reçoit de façon machinale, mais c'est qu'un acte vide de sens, parce qu'on est petit. Quand on grandit, on commence à recevoir maintenant des suppléments d'âme, on appelle cela des suppléments de connaissances, de grandeur spirituelle. Il faut commencer à connaître Dieu. Connaître Dieu, ça se fait par l'étude de sa Torah, et par l'étude aussi de ce qu'on appelle la pensée juive. Il faut parler de Dieu. Qui il est? Qu'est-ce qu'il n'est pas? Le fait simplement de parler de Dieu beaucoup, ça nous ramène à la conscience. Je peux parler maintenant, on peut parler maintenant pendant un quart d'heure de Dieu, vous allez voir, au bout d'un moment, on ne sort pas le même, parce qu'on a parlé de Dieu pendant un quart d'heure, donc quelque part, ça marque notre conscience. Il faut que ça s'appelle cultiver. Et après, une fois que tu commences à connaître Dieu, et ben après, il y a l'émotion, il y a tout, et ça, c'est dans la prière spécialement. La prière, l'acte qui est fait avec amour, la mitzvah aussi, l'acte que tu fais avec amour, d'accord. On a parlé le jour de Nefesh, Ruach, Neshama, c'est ça. Nefesh, c'est l'acte. Ruach, ça sera le côté plutôt sentimental, ce qu'on appelle la parole, d'accord, la prière. Et Neshama, c'est la connaissance de Dieu.
Quelqu'un qui ne pratique pas, il perd sa émouna.
Quelqu'un qui ne pratique pas, il perd de sa émouna. Pas complètement. Chacun pratique un peu. T'as des gens qui sont très très éloignés, tout comme ils ont un enfant. Bon, le faire circoncision, oui ou non. Pourquoi? Donc il y a un petit quelque chose encore. Ils vont se marier en Israël. J'ai une cousine anti-religieuse. Ben, à la dernière seconde, elle a décidé de se marier, pas en Chypre, d'accord? Les gens non religieux ne veulent pas se marier religieusement, donc ils vont à Chypre se marier de façon laïque. Non, ils sont mariés. J'ai fait un mariage religieux. Elle a amené un rabbin. Bon, elle était à moitié nue, mais quand même, il y avait un rabbin. Et ils l'ont marié religieusement, d'accord? Il y a eu Kiddushin. Pourquoi? C'est dur d'avouer, mais si tu vas au fond, ben parce que quand même, tu as ici la petite lumière, la petite flamme juive qui dit t'es juive, ma chère.
C'est quelque chose qu'on a déjà.
Tout le monde, nous sommes maminim bnei maminim. On a reçu cela en façon héréditaire. C'est le cadeau qu'a reçu Abraham, qui baissera, qui kerel hazera, la pacte d'alliance que Dieu a conclue avec Abraham. Il passera Be Yitzhak, dans Yitzhak, pas tout Yitzhak. Donc Ishmael, il en met de côté, Yitzhak. Mais pas tout Yitzhak, Yaakov, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Yaakov mitato shema. Sa descendance, c'est entièrement. C'est Shiftekal, les 12 tribus de Yaakov. Nous sommes tous descendants de lui. Et donc nous recevons ça de façon héréditaire. Parmi les non-juifs qui ont reçu aussi une sorte d'étincelle de ce type-là, qui fait qu'ils ont une attirance inexplicable, irrationnelle pour le peuple juif, lorsqu'ils se convertissent, reçoivent aussi cela. Comme les Israéliens ont reçu de façon héréditaire, eux reçoivent par acte volontaire de leur part.
Donc celui qui n'a pas forcément connaissance, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'immunité.
Tout dépend où il est. J'ai maintenant des cas de gens qui sont éloignés, mais qui ont quelque chose. Maintenant, tu as le contraire. Quelqu'un qui dit, moi je suis goy. Quelqu'un m'a appelé maintenant dans mon bureau. Du Maroc. Faouzi qui s'appelle. Bon, enchanté. Faouzi. Il me dit avec un accent marocain à tout casser. Ma mère maternelle, d'accord, je ne sais pas, j'arrive pas à faire l'accent bien. Ma mère maternelle est juive. Mon père est musulman. Donc je dois choisir. Parce que pour les musulmans, et les musulmans, pour les juifs, et les juifs. Donc il appelle au téléphone, il a quelques questions de pensée juive, sur la prière, sur Dieu, sur la... D'accord. Il se trouve en état de choix. Bon, ce type-là, maintenant, si jamais il choisit d'être musulman, d'accord. Alors peut-être qu'il a une émouna, est-ce qu'il a une émouna juive? Non. Lui, maintenant, il n'a pas reçu d'éducation juive du tout. Il sait au niveau intellectuel que, bon, sa grand-mère est juive, donc d'après les juifs, il est juif. Mais, bon, c'est une situation de choix. C'est-à-dire que, bon, c'est déjà pas mal. Il y en a qui n'ont aucun choix. Il y a des gens beaucoup qui circulent ici. d'accord, qui sont juifs. Et pourtant, ils font partie de l'autre côté, d'accord. Ils ne savent pas. Enfin, ils savent, mais rien à faire pour eux. Vu que d'après les musulmans, ils sont musulmans, point barre, terminé. Hein? Il y a un type ici qui vient travailler le matin. Et ben, il nous a dévoilé que sa grand-mère maternelle est juive. Donc, qu'est-ce qu'il est? Oui. Mais il est arabe de A à Z, d'accord. Comment
ils sont juifs, ces gens?
T'as l'opsite, un type qui vient toujours à Pessar faire mazan, il fait de la peinture, d'accord. Ben, il nous demande toujours des matzot pour Pessar. Pourquoi? Parce que sa femme, elle mange les matzot, elle est juive. Donc, ses enfants sont juifs. Tinok Shenishba. Tinok Shenishba. Tinok Shenishba, traduction littérale, un bébé qui a été fait prisonnier. Il y a eu beaucoup de cas dans la Shoah de petits-enfants qui ont été récupérés par les chrétiens. Et pour les chrétiens, faire tchouva à un chrétien, ça n'a pas beaucoup de valeur, mais faire tchouva à un juif, ça a beaucoup de valeur. D'accord? Donc ils ont éduqué ces juifs en tant que chrétiens, leur cachant qu'ils étaient juifs. Des fois, ils ont dévoilé quand c'est trop tard, des fois, ils n'ont pas dévoilé. Et le type, il vit en tant que chrétien, des fois en tant que curé, en tant que, des fois, que pape, qu'est-ce que j'en sais, d'accord, après, c'est candidat au pape, des fois, d'accord, la papauté, étant, et c'est un juif, mais lui, il est convaincu qu'il est chrétien. Il ne sait pas. Après ça, maintenant, il arrive à la Maba. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Pas de sa faute. Il ne savait même pas qu'il était juif. Mais ça, t'es noxé, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ils sont considérés comme désengagés de toute obligation, voilà, point barre. Hein? Je pense qu'il aura un petit olamaba, j'imagine qu'il y aura un guilgou, quelque chose comme ça, je ne sais pas exactement comment. En tout cas, on peut leur imputer aucun péché. Et certainement, ils ont fait des mitzvot, ils avaient un bon cœur, ils ont fait des choses bien, donc c'est certain qu'ils ont des mitzvot.
Je comprends quel intérêt d'Hachem de fermer ses âmes sur terre, si c'est pour ne jamais savoir qu'ils sont juifs et ne jamais pouvoir faire mitzvot.
Ça, Dieu sait ce qu'il fait, des fois, c'est des guilgoulim, des choses. Dieu sait ce qu'il fait. Lui, c'est ce qu'il fait.
Et alors, l'acte de ressentir les menaces, ça passe obligatoirement par la connaissance d'Hachem. C'est pas un homme qui ne fait pas de Gemara, qui n'est jamais allé en Yeshiva.
Une connaissance d'Hachem, c'est pas forcément que par l'étude d'Ora, c'est une connaissance plus profonde. Mais quelqu'un qui voit Dieu à tous les coins de route, il voit la main de Dieu, il prie à Dieu sans cesse, prend une bonne vieille femme marocaine. De la génération d'avant, d'accord? Qui est Yarabbi toute la journée, elle parle que de Dieu. Toute la journée, il n'y a que ça. Yarabbi, Yarabbi Haim Pinto, Yarabbi Zalano, d'accord? Tout ce que tu veux, d'accord? Elle a une émouna pshuta, une foi simple, mais une foi débordante. Il est connu, il y a eu des cas, beaucoup de cas, dans l'histoire juive, on a mis devant les juifs le choix. Ou la croix, ou le bûcher. Ben des fois, des grands juifs, qui étaient des grands intellectuels, des sages, d'accord, ils ont choisi de... Ils ont posé ce... Mourir à Kiddush Hashem, ils ont choisi la croix. Et des gens très simples, ils ont dit, Shema Israël, et jeté au feu. Et c'est pas forcément la connaissance qui amène la Emouna. Quelqu'un qui a la Emouna, qui travaille, la Emouna, un plus de connaissance donnerait une Emouna plus construite. C'est pas une Emouna sainte, c'est une Emouna de connaissance beaucoup plus grande. Évidemment, quand quelqu'un... Il a l'amour de Dieu. Au bout d'un moment, il a un amour. Quand on a l'amour de Dieu, alors on a envie, entre guillemets, de faire plaisir. J'aime pas ce mot du tout, mais il y a une relation, d'accord? Il y a une relation d'amour. La relation d'amour se fait dans l'accomplissement de tous les actes avec le plus grande minutie possible pour l'autre. T'attends que ta femme revienne maintenant de voyage, te préparer un repas, t'as rangé la maison, t'as acheté un bouquet de fleurs, t'arranges comme ci, tu mets la serviette comme ça, tu mets machin comme ça, tous des petits détails, chaque petit détail, tu entends des petits détails, tout, t'as mis quelqu'un même qui s'y connaît mieux que toi, parce que pour toi, le ménage, c'est pas ton fort, d'accord? Que ça soit nickel comme il faut bien. Attends, elle arrive, oh, d'accord, elle voit tout d'un ensemble, mais chaque effort que tu fais quand t'es amoureux, tu le fais avec amour, ce petit détail, ce petit détail, même qu'elle n'a pas vu, elle verra pas ça, elle n'aura pas vu, le petit coin du machin, d'accord? Tu ne savais pas que le lit, la couverture était comme ça, tu as tiré un peu. Elle n'a pas fait attention à ça. Mais toi, tu fais attention à chaque détail, tu le fais avec amour. Donc, quand on est amoureux, on fait attention à chaque détail. C'est pour ça qu'il est nécessaire, si on veut vraiment être amoureux et réaliser cet amour vers Dieu, de connaître toute la halakha, toute la Torah, pour savoir chaque petit détail, comment le faire mieux. Ce qui est marqué, En bur En am aretz chassid. Un amahar, un nina ne peut pas être chassid. Chassid, c'est quelqu'un qui fait plus que le statut nécessaire. Celui qui le fait est appelé un tzaddik. Et le chassid, celui qui fait plus, c'est un amoureux. Chassid, ça vient, ça signifie dans le amoureux. Amoureux, il veut faire plus. Alors quoi plus? Si quelqu'un ne sait pas quelle est la volonté de Dieu, il risque d'être chassid choté, ce qu'on appelle. Chassid choté, c'est un amoureux idiot. Par exemple, lui, il fait très attention. Tout ce qui est féminin, il sait que c'est dangereux, donc il se met beaucoup de barrières. Puis il voit une dame maintenant en train de se noyer dans le fleuve, il dit Chassé shalom. Chassid choté. D'accord? C'est un crétin. C'est un assassin. D'accord? Au nom de l'amour de Dieu. Donc, il y a beaucoup de dangers. Des fois, quelqu'un, il fait, je sais pas moi, c'est Sefer Torah qui passe. Il court comme ça, bouscule tout le monde. Très sympathique. L'amour de la Torah, d'accord? Et les autres. Il y a beaucoup d'exemples où quelqu'un n'est pas équilibré. Dans la connaissance de la Torah, il ne saura pas qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est accessoire. Très souvent, tu as des balais de tchouva. Le balai de tchouva, il est tout feu, tout flamme, amoureux de Dieu. Pour un petit détail, insignifiant, qui est un truc, pas d'après la Kabbalah, c'est bien de faire comme ça, il fait des bagarres, il rentre dans les pays, il hurle sur les parents, des choses. Alors que Kibbutz Av Va'em, 5e midi commandement, ton petit truc Kabbalah, la noix de coco, d'accord, il n'a aucune valeur par rapport à ça. Il y a un équilibre. L'équilibre se fait par la connaissance. S'il n'y a pas une connaissance de la hiérarchie, qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui est moins important, comment, qui, quoi, qu'est-ce que Dieu veut vraiment de moi. Alors je suis amoureux, mais c'est comme si maintenant quelqu'un est amoureux de sa femme, et il lui fait un très grand cadeau, il achète une perceuse Black & Decker. Le dernier modèle, chéri. Celui que j'aurais tellement voulu avoir. C'est exactement ça. Il est amoureux, il a acheté le plus beau cadeau possible, imaginable. D'accord? Mais c'est pas ce qu'elle veut, sa femme.
Est-ce que quelqu'un qui fait les choses par ignorance, il est condamnable? S'il est sûr au fond de lui qu'il fait bien, il ignore.
Si quelqu'un fait les choses par ignorance, c'est condamnable. Alors, la réponse est la suivante. Est-ce qu'il est ignorant de façon préméditée ou malgré lui? S'il n'avait pas le choix. Et il est ignorant. Et il est amoureux de Dieu. Et il fait des gaffes parce qu'il ne sait pas comment faire. Mais il est ignorant malgré lui. C'est malgré lui. C'est à peu près comme le cas du Tinoch Nishba, du bébé qui a été pris dans le couvent quand il était petit. Mais si quelqu'un maintenant peut étudier, n'étudie pas. À coup de ça, fait des erreurs. C'est marqué Shegegat Talmud Ola Zadon. Quelqu'un qui reste Shogeg. Shogeg, ça veut dire involontaire. Il a fait un péché de façon involontaire. Il fait une erreur de façon involontaire. Parce que Talmud, il n'a pas fait. Il n'a pas étudié. Il est considéré comme Zadon. Zadon signifie prémédité. Beaucoup de gens qui ne veulent pas étudier. Si je vais à Yeshiva, après, je ne pourrai plus faire ce que je veux. Eh bien, bien que tu ne vas pas et que tu n'as pas appris, c'est comme si tu as appris et que tu ne fais pas. Sinon, on ne s'en sort pas. C'est tout à fait logique. Il ne veut pas apprendre. Le fait de ne pas vouloir apprendre, ça te rend tout aussi volontaire, responsable, comme si tu savais que tu transgresses malgré tout. C'est nécessaire d'étudier, messieurs. Nécessaire d'étudier.
Mais comment on fait pour savoir que nos actes sont faits sincèrement? Si c'est pas peut-être un intérêt ou simplement une
crainte. Comment faire pour savoir si nos actes sont sincères ou pas? Beaucoup de travail, beaucoup de sincérité. Être bien s'analyser et savoir que l'acte sincère à 100% pour Dieu du premier coup, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il est bien, c'est déjà un bon niveau. Qu'il y ait dans la qu'on fait, qu'il y ait déjà un peu d'actes qui soient faits les Shem Shamaim. C'est déjà bien. Mais c'est très dur de se débarrasser de tout ce qui va avec. En faisant, tu fais un acte qui est bien. Tu as donné Tzedaka à quelqu'un. Alors, il y a au moins 5 raisons qui vont avec. D'abord, tu as une pitié. C'est pas Hachem Shamaim. T'as une pitié. Ça te fait mal de voir quelqu'un qui souffre. D'accord? Mais parce que c'est une projection de toi, même si moi j'étais à sa place. Première raison. Deuxième, tu te dis, bon, moi je fais ça, c'est une protection. Troisième, je redois la maba. Quatrième, la personne m'a dit merci gentiment avec un sourire. Je suis quelqu'un. Cinquième, je fais ça en public, les gens me voient. Je mets mon nom aussi des fois. Et peut-être aussi les Shem Shamaim, parce que Dieu a ordonné la Tzedaka. Mais arriver à faire un acte pareil, complètement les Shem Shamaim, complètement pour Dieu, par amour de Dieu, et qui sale ça le but, c'est du travail. Du travail, il faut faire très attention. On est extrêmement pollué. Extrêmement pollué. C'est très dur quand tu fais une mitzvah. J'ai eu un cas dernièrement. Je connais quelqu'un qui prie. Qui prie bien. Et quelqu'un lui a dit, j'aime bien comme vous priez. La suppléante m'a dit que depuis qu'on lui a dit ça, et le type est à côté de lui, le type lui a dit ça. Mais il n'arrive plus à prier comme avant, parce qu'il sait que l'autre le regarde. Ça le dérange. On lui a fait un compliment. Attends. On n'est pas des morceaux de bois. On fait un compliment, ça fait plaisir quelque part. D'accord? Alors maintenant, quand toi tu pries, maintenant, comme tu pries d'habitude, maintenant tu sais que le type t'a fait un compliment. Ça te fait des comment on appelle ça, des brouillages de pensée. Quelqu'un étudie ici à l'Eshiva. Il vient ici, Shem Shamaim, par amour de Dieu. Et puis, au Shiur, il a dit quelque chose, tout le monde a psh, psh, le rave, les élèves, psh. Ils sont bien étudiés maintenant. Il n'est plus le même. Terminé. Pss, pss, ça fait quelque chose. Pss, pss, d'accord. Ça fait quelque chose. C'est très dur. Ken.
Il ne faut jamais faire du mal à quelqu'un. Ou alors...
Non. Le chesed. Ta question. Est-ce que ça signifie donc qu'il ne faut pas faire des compliments à quelqu'un? Il y a un mitzvah dans la Torah de faire du chesed. Le chesed qu'on doit faire avec son prochain concerne... Olam Hazé. On ne doit pas penser à son Olam Haba, on doit penser à son Olam Hazé. C'est-à-dire, je peux aussi penser aussi à son Olam Haba. Lui parler, par exemple, je vois qu'il fait des erreurs, le corriger, lui parler, c'est de faire sa chouva, etc. Mais je ne dois pas le priver de Olam Hazé pour Olam Haba. Du genre, c'est marqué dans la Torah maintenant, Zoudar Kachet Torah, voici la voix de la Torah, Pat Bamelach Tochal, du pain avec du sel, tu mangeras. De l'eau reste en restriction, tu boiras. Sur la terre, tu dormiras. Ou bah, Torah, ta amel, et en Torah, tu peines. Et si tu fais comme ça, Ashrelach vetovlach. Bien heureux tu es, et tu auras que du bien. Bien heureux tu es dans ce monde, et tu auras que du bien dans la Maba. Donc, moi qui vous aime beaucoup, chers élèves, dorénavant, ça arrange aussi les budgets de la Yeshiva. On change les menus, les matelas, on les vend, on dort par terre, et remerciez-moi. C'est pas comme ça que ça marche. Et si j'extrapole les souffrances de ce monde, c'est marqué qu'un souffre dans ce monde-là, c'est un grand, grand mérite pour la Maba. Alors viens, c'est par ici, tiens. Et je clac et dis-moi merci, d'accord.
C'est ça son mouvement.
Hein? Donc c'est impossible. Si maintenant je dois choisir, je vais lui donner je vais répondre à un besoin spirituel en lui amoindrissant. En le faisant souffrir matériellement, c'est le contraire du chesed, ça s'appelle la cruauté. Donc il est normal, il est bien de faire des compliments. Maintenant, tu dis le type, ça le dérange, ok, alors à lui se débrouiller avec ça. S'il vient, tu demandes, écoute, je te demande de ne pas faire des compliments, ok. Il ne faut pas nananer, je fais des compliments quand même, d'accord? Non. S'il vient gentiment et te demande, ne me fais pas des compliments, ça me dérange. De façon naturelle, on doit dire des compliments à l'autre parce qu'on ne doit pas s'occuper maintenant de son Olam Haba. Les gens ont besoin de compliments, c'est une soif, c'est une nécessité. Les gens ont besoin de ça plus que de tout. Donc donne-leur. Donne-leur.
Comment trouver le juste milieu dans le compliment entre le chesed et la flatterie?
Non, tu as un compliment qui soit... La flatterie, c'est quand tu fais un compliment avec un but intéressé.
Pourquoi l'intérêt, c'est simplement vouloir faire plaisir, vouloir...
Ça, c'est tout à fait, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Et c'est pas un mensonge. C'est pas un mensonge. Comme je donne l'exemple souvent, toi, Bertha, c'est une petite fille, elle reviendra de l'école, à l'âge de 3 ans, papa, elle court dans tes bras, papa, regarde le dessin que j'ai fait. Tu regardes le dessin, mais ma chérie, mais c'est un gribouillis affreux. On voit même pas ce que c'est, mais il est tordu, ce type-là. Tu l'as tué, ta fille. Mais c'est très joli, on va le mettre dans la chambre. Regarde maman, t'as appelé grand-papa, grand-papa, regarde le beau dessin qu'il a fait. ta fille, tu as fait sa journée. Alors, nous sommes tous d'accord que c'est un vrai gribouille, d'accord? Tu comprends, c'est pas un mensonge. C'est la normalité de chesed, de la bonté, en disant à quelqu'un, c'est pas un mensonge. Mensonge, c'est aussi quand c'est un but qui est intéressé, négatif. C'est pour toi, au dépens de l'autre. Mais là, c'est pour le faire grandir à lui. Après, la fille va grandir à Tachem, elle sera pas ta fille, la fille de quelqu'un d'autre, d'accord? Problème de maths. Elle est nulle en maths. Maintenant, elle a amené un 2 sur 20. C'est mieux que la dernière fois, c'était 1 sur 20. Bravo, t'as fait deux fois mieux que la dernière fois, ma chérie. Je suis fier de toi. Ah, papa, maman, grand-papa, grand-maman, elle a eu 2 sur 20, mieux que la dernière fois, le double. Qu'est-ce qu'elle fait, ta fille? Elle fonce dans sa chambre, elle prend le bouquin de maths, hop, elle les ouvre, elle commence à étudier. Ça s'appelle être intelligent. C'est ça du chesed, c'est ça aider l'autre. La flatterie, c'est quand tu fais un compliment en vie de façon intéressée pour le mal de l'autre, au dépend, tu veux profiter de lui après. Tu as besoin d'un piston, tu as besoin de. Alors tu lui casses la patte, d'accord? Ça, c'est flatterie. Mais quand tu fais. Quand tu changes, on appelle ça mentir, on appelle ça méchaner, c'est-à-dire que tu changes la réalité pour le bien de l'autre, c'est pas un mensonge. C'est une mitzvah. C'est vrai qu'on peut l'échanot, donc entre guillemets mentir, ça veut dire changer pour la paix. La paix, c'est en fait tout ce qui va avec le bien. Tu peux. Les gens qui. Non, faut toujours tout la vérité. Non, faut pas toujours la vérité, des fois elle est très très blessante, elle peut tuer. C'est-à-dire qu'il faut dire toujours la vérité. Quand c'est dans un but bénéfique, pas pour toi, pour l'autre, pour la paix, pour le bien de l'humanité, mitzvah, de, j'aime pas le mot mentir, de changer la vérité.
C'était quoi la phrase encore sur on n'est pas chassid.
En bour yerechet, en amaretz chassid. Le bourg, l'ignorant, peut pas être yerechet, peut pas avoir la crainte du péché, et le amaretz, l'ignorant, peut pas être un chassid, un amoureux de Dieu. Oui.
Pour revenir au 2 sur 20 en maths, à un moment, il faut mettre la réalité en face de...
Ça va, elle a des copines qui ont 18 sur 20. Elle la voit trop bien, la réalité.
C'est le terminal qu'elle est au mois du bac.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas dire la réalité. Je dis qu'il faut être intelligent, comment éduquer de la façon la plus optimale. Nous voulons le but, quand tu as un élève, un enfant... Un éduqué, d'accord, qui a des problèmes. Le but, c'est de le faire monter, pas de l'enfoncer. Donc, lui dire qu'il est nul, ça va pas aider à beaucoup. Donc, il faut le faire monter, trouver les bons côtés, etc., l'encourager. Baruch Adonai, l'Amen, l'Amen.